Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 16 décembre, bonsoir à tous, bon début de semaine. Vous êtes au rendez-vous de l'info sur RFI, c'est le coup d'envoi de notre session soirée pendant 3 heures. Les temps forts à venir, le décryptage dans 10 minutes, Clotilde Dumay. Comment la Géorgie peut-elle sortir de la crise politique ?
Et oui, puisqu'un nouveau président a été désigné ce week-end. Victoire pour le parti pro-russe au pouvoir qui a remporté fin octobre des élections législatives contestées. L'actuelle présidente Salomé Zourabichvili assure qu'elle ne quittera pas son poste tant qu'un nouveau scrutin ne sera pas organisé. Et pendant ce temps, les manifestants pro-européens, eux, continuent de se mobiliser contre le gouvernement. Alors comment cette crise politique et institutionnelle peut-elle évoluer ? Eh bien, c'est ce qu'on analysera ce soir dans Décryptage.
A tout à l'heure. Juste après, ce sera le débat du jour qui s'intéressera ce soir à la Turquie. Avec cette question, est-ce que la Turquie est incontournable ? Elle est désignée comme la grande gagnante de la chute du régime syrien. Elle s'est également illustrée la semaine dernière en annonçant un accord entre l'Éthiopie et la Somalie. La Turquie s'affiche-t-elle comme un géant géopolitique de demain ? Rendez-vous dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir. Nous serons à Mayotte. 18h30 TU Afrique Soir, la première édition. 19h10 TU, votre session reportage. Accent d'Europe ce soir en Autriche pour évoquer la situation des réfugiés syriens. Enfin, le grand reportage en Indonésie ce soir où se construit une future capitale projet sous haute tension.
RFI.
Mais pour l'heure, à 17h01, temps universel, c'est le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une, Karine ?
Mayotte. Dans l'océan Indien, les autorités françaises tentent de prendre la mesure des dégâts après le passage du cyclone. La tâche est difficile, impossible d'établir un bilan humain pour le moment. L'effondrement des habitations, surtout des bidonvilles, a pu faire des centaines de morts. L'hôpital est très endommagé, le téléphone coupé, l'eau manque et le réseau d'électricité est hors d'usage. Les habitants se sentent seuls et craignent désormais les pillages. Écoutez le témoignage d'Ulrich, un Mahorais qui habite Combani, au milieu de Mayotte.
Étant donné qu'il n'y a pas de courant, donc la nuit, c'est la nuit noire, il y a des jeunes qui s'introduisent dans les maisons, qui pillent, ils ont commencé à piller les magasins, c'est nous qui faisons la sécurité, quoi. Il commence à avoir des gens qui rôdent, qui font du repérage, donc on essaie de se mobiliser les habitants pour faire en sorte d'avoir une présence pour les dissuader. Mais après, une fois que la nuit est tombée, c'est nuit noire, hein, y a aucune lumière. Et puis même allumer une lampe torche, ça, c'est même risqué, dans le sens où vous êtes visible. C'est ça qui est vraiment compliqué. Donc en espérant que la situation, au moins avoir peut-être de l'eau en premier lieu, de l'électricité par la suite, ça serait bien, mais vraiment de l'eau. Là, on va essayer de trouver de quoi faire tourner le groupe, au moins aujourd'hui ou demain, le temps que la situation, on va dire, s'améliore, si elle s'améliore. Puis après, on va retourner sécuriser les habitats et aider les gens qui sont autour de nous, étant donné qu'on est livrés à nous-mêmes, donc on essaie de faire au mieux.
Ulrich, un habitant du centre de Mayotte, contacté par Lola Fourmi. À Paris, faute de gouvernement constitué, c'est seul que François Bayrou répondra aux questions des députés dans l'hémicycle demain. En attendant, le nouveau Premier ministre consulte pour former son équipe. Il a commencé à recevoir les groupes parlementaires à Matignon. Ce matin, le Rassemblement national a ouvert le bal. À sa sortie, Marine Le Pen a salué la méthode de François Bayrou, jugée plus positive que celle de son prédécesseur Michel Barnier. Les socialistes ont indiqué, eux, être restés sur leur faim, faute d'indications sur la suite des événements. De l'autre côté du Rhin, dans une Allemagne aussi en crise, l'heure est à l'organisation des prochaines élections. Sans surprise, Olaf Scholz a perdu la confiance des députés cet après-midi. Un vote attendu après la chute de sa coalition. La voie est ouverte pour la tenue des législatives anticipées fin février. À Damas, les émissaires affluent pour organiser le futur de la Syrie autour des islamistes radicaux du HTS. Après des jours de silence, Bachar el-Assad s'est exprimé pour la première fois depuis sa chute. Il a rédigé un communiqué sur Telegram, vraisemblablement depuis Moscou. Théo Renondon, bonsoir.
Bonsoir.
Une prise de parole où Bachar el-Assad dément avoir abandonné le pays avant l'effondrement de son régime.
Il laisse entendre qu'il aurait voulu s'exprimer avant, mais que les coupures de communication l'ont ont empêché. Bachar el-Assad fait dans ce communiqué le récit du samedi 7 Et dimanche 8 décembre, les rebelles islamistes assiègent alors Damas. Bachar al-Assad, lui, affirme qu'il est resté dans la capitale syrienne jusqu'au dimanche matin, avant d'être exfiltré vers Latakia, là où se situe une importante base russe en Syrie. De cette base, il assure qu'il a voulu superviser les opérations de combat.
Mais c'est trop tard, Théo. À ce moment-là, son régime est déjà tombé.
Selon son récit, à son arrivée, plus d'ordre a donné. Ses soldats ont fui et la base militaire russe dans laquelle il dit s'être réfugié est ciblée par des drones acculés. Ce n'est qu'à ce moment-là, le dimanche soir, qu'il est évacué direction Moscou. Aujourd'hui, Bachar al-Assad dit que l'État syrien est tombé aux mains, je cite, de terroristes. Il écrit néanmoins être rempli d'espoir que la Syrie sera de nouveau libre et indépendante un jour. En attendant, il promet de publier un compte-rendu détaillé des événements lorsque, je cite, l'occasion le permettra, sans plus de précision.
Théo Renaudon du service international d'RFI. En Iran, l'exaspération de la population grandit. Pour le troisième jour consécutif, les écoles et les bâtiments publics resteront fermés demain à Téhéran. Plusieurs centrales électriques ont été mises à l'arrêt en raison de leur vétusté et le gaz manque aussi. En Géorgie, le camp pro-européen tente d'éviter l'essoufflement. Ses partisans ont décidé de manifester désormais nuit et jour, malgré la répression implacable du pouvoir pro-russe. Plus de 400 personnes ont été arrêtées et battues ces 12 derniers jours. Notre envoyé spécial à Tbilissi, Julien Chavanne et Irma Inaridze, ont pu rencontrer des manifestants qui ont subi cette violence.
Sandro Metrevelli a vécu une nuit de cauchemar le 6 décembre dernier. Cet étudiant en cardiologie quitte la manifestation devant le Parlement, mais des policiers anti-émeutes l'arrêtent.
Ils m'ont emmené dans un coin de la place et ils ont commencé à me taper. Ils me donnaient des coups de botte. Ça a duré plusieurs minutes. Ils m'ont ensuite jeté dans un minibus où ils m'ont menotté.
Sandro est finalement relâché puis condamné à une amende de près de 800 euros. Ruti Bokolishvili, un entrepreneur de 31 ans, a connu la même histoire, une arrestation arbitraire et un tabassage en règle par les policiers.
Il nous disait « Pourquoi vous manifestez? Vous jetez des pierres sur nos gars? Vous n'êtes pas des patriotes ?» Le message principal, c'était « Vous voulez cette Europe dépravée, cette Europe d'homosexuels ?»
Ruti a déjà repris le chemin des manifestations. Sandro, lui, doit encore rester au calme pour soigner ses blessures.
J'ai du mal à regarder les membres de ma famille qui s'inquiètent dès que je sors de chez moi. Ils ont peur que je me fasse tabasser dans la rue par les titouchki.
Les titouchki, des civils payés par le gouvernement pour attaquer les manifestants jusque chez eux, faire peur aux protestataires pour les décourager de manifester. La répression n'a pour l'instant pas brisé la contestation. Julien Chavanne, Tbilissi, RFI.
Les ennuis continuent pour Nestlé. Début 2024, le géant suisse de l'agroalimentaire avait déjà été épinglé comme bon nombre de ses concurrents pour des pratiques trompeuses concernant les bouteilles d'eau de source ou d'eau minérale naturelle qu'il commercialise. Nathanaël Vitran, de nouvelles révélations concernent cette fois l'eau gazeuse Perrier.
Oui, des révélations qui viennent à nouveau de la cellule Investigation de Radio France et du journal Le Monde. Elles concernent l'eau Perrier, commercialisée comme eau minérale naturelle, un label qui impose normalement l'absence de tout traitement. Or, d'après un rapport de l'Agence régionale de santé d'Occitanie datant de l'été dernier et que se sont procurés ces deux médias, la qualité sanitaire de l'eau extraite n'est pas satisfaisante. Elle présenterait même un risque d'ordre virologique. L'agence étatique parle de contamination bactérienne inacceptable pour une eau minérale naturelle et invite donc Nestlé à en tirer toutes les conséquences en envisageant un autre usage pour son site historique de Vergèze au sud de la France. Une manière administrative de signer la mort de Perrier, une marque mondialement connue puisque la moitié de la production part à l'étranger. Déjà en avril dernier, Nestlé avait été contraint par l'État de détruire 2 millions de bouteilles après un épisode de contamination d'origine fécale. Une situation qui inquiète aussi les salariés, l'usine de Vergèze emploie plus de 1000 personnes.
Et puis le Bitcoin a atteint un nouveau record aujourd'hui, au-dessus des 106 000 dollars. Nouveau coup de pouce de Donald Trump. Le président américain élu a dit envisager de créer une réserve stratégique de Bitcoin similaire à la réserve de pétrole du pays. Et puis un mot du Vendée Globe. Charlie Dalin résiste encore. Son avance a fondu ces derniers jours. Mais il reste en tête de la course à la voile en solitaire autour du monde. Johan Richaume est deuxième. Il n'est plus qu'à 40 000 nautiques de Charlie Dalin. Tout de suite, c'est le décryptage de Clotilde Dumais.